Radio Prague, les informations.
La République tchèque est prête à aider à résoudre le conflit au Proche-Orient. Selon la diplomatie tchèque, les élections en Ukraine ont été en accord avec les normes internationales. Le procureur a déposé l'acte d'accusation contre les fauteurs de l'incendie criminel à Vitkov contre une famille rome. Une conférence s'est déroulée à Prague à l'occasion du 20e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et la République tchèque. L'occasion pour le Premier ministre Jan Fischer d'assurer de la préparation de la Tchéquie de servir de médiateur dans les négociations de paix au Proche-Orient. Prague œuvre aussi en vue d'une prise de position commune de l'Union européenne envers Israël, a constaté Jan Fischer en soulignant que la Tchéquie et Israël partagent le même héritage culturelles et s'influencent mutuellement tout au long de leur histoire. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Kohout, a apprécié l'organisation des élections en Ukraine, à son avis, qui est identique à celui de l'Union européenne. Les élections dans ce pays ont été en accord avec les normes internationales. Le principal, d'après Jan Kohout, est que la situation en Ukraine, après les élections présidentielles, reste stable et les conditions permettant l'adoption rapide de réformes démocratiques soient créées. Et le ministre de constater que la diplomatie tchèque est maintenant prête à négocier avec l'Ukraine les problèmes de sécurité énergétique, le projet du partenariat oriental, la problématique de sécurité ainsi que la future intégration de l'Ukraine dans les structures euro-atlantiques. Le procureur Brigitta Bilikova a déposé au tribunal régional de Strava l'acte d'accusation dans l'affaire de l'incendie criminel contre une maison habitée par une famille rome dans la commune de Vitkov en avril dernier. Le procès de quatre radicaux de droite devrait commencer au printemps prochain. La police les a inculpés de tentative de meurtre à motivation raciale commis contre un groupe de personnes dont une petite fille âgée de 2 ans, Natalka. Natalka, qui a subi des brûlures sur plus de 80% de son corps, a pu quitter l'hôpital après 8 mois de soins intensifs. Les hommes inculpés encourent des peines de 12 à 15 ans de prison, éventuellement une peine exceptionnelle. L'ancien président tchèque Václav Havel souffre d'une inflammation de voies respiratoires. Il est soigné par des antibiotiques. Une déclaration de l'attaché de presse de l'ancien président Sabina Tančevová. Selon cette dernière, Václav Havel s'est vu obligé d'annuler son programme pour les prochains jours. Pour le moment, la cure aux antibiotiques semble efficace, mais il est trop tôt pour dire quelle sera la longueur du traitement. La pollution atmosphérique étouffe de nouveau la région de la Moravie du Nord. La limite de poussière volatile a dépassé 3 fois le seuil de tolérance. Mercredi, jour de fête de tous les Moïmirs, le temps en Tchéquie sera couvert avec de nouvelles chutes de neige. Les températures diurnes s'échelonneront entre -5 et -1 degré pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jirka Gisublova. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Le gouvernement de Jan Fischer a adopté le programme de convergence. Nous vous donnerons quelques détails. Ensuite, nous allons nous référer aux résultats d'une récente enquête qui révèle que les Tchèques, en dépit des clichés qui existent et des nouveaux médias qui s'imposent, aiment toujours lire. Invitation ensuite dans un petit théâtre de Prague spécialisé dans la création de pièces d'auteurs français. Nous vous présenterons enfin le plus grand espoir tchèque pour les Jeux olympiques d'hiver. Le gouvernement tchèque a adopté la version actualisée du programme de stabilité et de convergence qui comprend une série de projets pour la réduction du déficit budgétaire. En même temps, le cabinet a approuvé un ensemble de mesures contre la crise qui sont contestées catégoriquement par les ministres qui représentent au gouvernement le Parti des Verts. Václav Richter.
Le programme de stabilité et de convergence doit être présenté tous les ans à la Commission européenne. Il prépare et conditionne l'adoption de l'euro. Le chef du gouvernement, Jan Fischer, l'a commenté ainsi.
Le cabinet a approuvé un programme dans lequel il manifeste sa volonté de consolider les finances publiques et de réduire le déficit du budget de l'État de 5,3% à 4,7% en 2011 jusqu'à 4,2% en 2012. Cela veut dire que nous pourrons revenir aux critères de Maastricht, un déficit inférieur à 3%, soit en 2013 ou en 2014.
Ajoutons que l'année dernière, le déficit public a atteint 6,6%. Le programme de stabilité et de convergence sera envoyé à Bruxelles avant le 15 février. En même temps, le cabinet a adopté, malgré les protestations des ministres verts, un ensemble de 38 mesures à court terme contre la crise. Elles sont le résultat d'un consensus entre la commission tripartite, qui est l'organe réunissant des représentants du gouvernement, le patronat et les syndicats. La réaction négative du chef du parti des verts, Andrzej Liszka, ne s'est pas fait attendre. Il a qualifié ce résultat de victoire d'un lobby industriel.
Je considère comme tout à fait absurde qu'à l'époque où les gens dans la région d'Ostrava étouffent littéralement à cause de l'air pollué, le gouvernement ait obligé le ministre de l'Environnement à ne pas soumettre à la Chambre le projet de loi sur la protection de l'atmosphère qui doit améliorer cette situation. Parmi les projets adoptés par le cabinet, beaucoup sont controversés. Il s'agit entre autres de la construction du système d'écluses sur l'Elbe qui coûtera des milliards de couronnes et dont la raison d'être est douteuse.
Le Parti des Verts conteste également les projets de rénovation de la centrale électrique de Prunejov et ceux concernant l'élargissement de la centrale nucléaire de Temelin. Le Premier ministre Jan Fischer réplique.
Je ne pense pas que le gouvernement cède à un lobby industriel. Ce n'est pas le résultat de négociations avec des lobbyistes industriels, mais avec des partenaires sociaux qui sont des partenaires légitimes et des membres de la commission tripartite. On ne saurait considérer les syndicats et le patronat comme des lobbyistes. C'est donc vraiment le résultat des négociations de cet organe.
Le ministre de l'Environnement Jan Dusig et son collègue Michael Kotzap, ministre en charge des droits de l'homme, refusent cependant d'appliquer les mesures controversées et laissent entendre qu'ils envisagent de démissionner.
Les Tchèques se présentent comme une population de rats de bibliothèque, pour lesquels la langue tchèque possède la charmante expression de knihomol. C'est du moins ce que révèle une récente enquête effectuée par le département d'études tchèques à l'Académie des sciences. Quelques chiffres d'abord. 80% des Tchèques lisent au moins un livre par an. Le nombre de livres édités par rapport au nombre d'habitants serait supérieur à la moyenne de la plupart des pays européens. La Tchéquie dispose de près de 4000 maisons d'édition. Plus d'un million et demi de personnes seraient inscrites dans une des bibliothèques publiques ou privées. On en compte plus de 5000 sur tout le territoire. L'édition d'un grand nombre de titres variés, mais à petit tirage, la pratique d'impression de moins de 200 exemplaires d'un ouvrage n'est pas exceptionnelle, est une spécificité notable du marché du livre national. Existe-t-il aussi une spécificité en ce qui concerne un lecteur tchèque typique, le chercheur Jiří Travniček?
Il s'avère que chez nous, il n'y a pas de barrière urbanistique. Autrement dit, chez nous, on lit tant dans les grandes villes qu'à la campagne. Une autre spécificité, c'est que l'intérêt pour la lecture ne diffère guère entre les générations, tandis que dans d'autres pays européens, les jeunes lisent en général plus que les vieux. Force est en revanche de constater que le clivage entre hommes et femmes, bien que partout ce soit les femmes qui lisent le plus, est chez nous plus prononcé qu'en Europe occidentale.
L'éditeur Jan Kanzelsberger trouve encore une autre caractéristique au lecteur tchèque, tirée de sa propre expérience.
Le lecteur tchèque est plus conservateur dans le choix des livres par rapport à ceux que l'on peut voir ailleurs en Europe. C'est le fruit notamment du contexte historique, car le marché du livre ouvert et libre n'existe chez nous que depuis 20 ans.
Un constat surprenant à la fin. La crise économique semble avoir évité le domaine du livre. Sauf que le nombre d'ouvrages qui ont été édités et vendus au cours de l'année dernière a légèrement baissé. Les éditeurs et les libraires sont pourtant loin de déplorer cette situation. Ils estiment que c'est plutôt bien, en raison du fait que le marché national du livre, tel qu'il se présentait jusque-là, était sursaturé. Le studio Saint-Germain est la scène expérimentale du Rock Café à Prague, spécialisé dans les mises en scène en tchèque de pièces de théâtre françaises. Elle propose justement un nouvel opus dans son répertoire. Lundi s'est déroulée la première de Léviathan Kokix, pièce du dramaturge d'origine suisse Jean-Daniel Magnin, dont on peut rappeler qu'il a été co-scénariste du film La vie rêvée des anges. Avant la première, il a décrypté pour Anna Kubischta le titre de sa pièce.
Alors d'abord, c'est le nom du personnage principal. Il faut savoir que c'est un ancien dictateur qui vient de perdre le pouvoir et qui est entouré de ses femmes, si on peut dire. Alors Léviathan Kokix, Léviathan, c'est le monstre biblique, c'est la baleine, c'est aussi un énorme corps social, selon le philosophe Hobbes, c'est le géant, disons. Et Kokix, c'est le petit os au bout de la queue de notre moelle épinière, de notre échine. Donc c'est son petit côté minable, lâche, et pas grand du tout. Parce qu'en fait, sa particularité, c'est que c'est un peu comme un coq avec ses femmes, comme un coq avec ses poules.
Cette pièce, vous la situez dans un pays imaginaire qui n'est pas très loin d'ici, on va dire, en tout cas Europe centrale, Europe du Sud. Vous vous inspirez de dictateurs connus ou inconnus, en tout cas vous faites une espèce de petit mélange de dictateurs connus pour ce personnage de Léviathan.
Voilà, alors je ne suis pas Jarry et j'ai pas eu le talent et le génie d'inventer les dictateurs du XXe siècle avant qu'ils apparaissent, comme il l'a fait avec Ubu. Alfred Jarry. Là, c'est une espèce de condensé un peu farcesque, un personnage qui pourrait être aussi un père de famille, un directeur de bureau, qui pourrait être tout à fait un chef d'une secte. Hein, ça prolifère, je crois, aussi bien ici que de l'autre côté de l'Europe. Il se trouve que c'est un dictateur qui a été élu, donc dont le modèle éventuellement pourrait être entre Milosevic, Ceausescu ou Karadžić, voilà. Mais ça n'est pas un portrait de ces personnages-là. C'est une libre interprétation, bien sûr.
Retrouvez Jean-Daniel Magnin ainsi que Jaromír Janeček, le fondateur du studio Saint-Germain, dimanche, dans Culture sans frontières avec Anna Kubischta, bien sûr. La majorité des sportifs tchèques qui participeront aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver s'est envolée pour le Canada jeudi. Ils se sont installés dans les villages olympiques qui ont ouvert leurs portes une semaine avant le lancement officiel. Au total, un nombre record de 93 athlètes tchèques, parmi lesquels 23 hockeyeurs, s'aligneront dans 13 des disciples inscrites au programme des Jeux. Guillaume Narguet.
Dans un supplément spécial consacré à la 21e Olympiade d'hiver et publié mardi, le quotidien Mlada Fronta Dnes compare les attentes placées en Martina Sablikova en République tchèque à celles que pourraient avoir les Esquimaux si leur équipe de football, s'il en existait une, était favorite de la prochaine Coupe du Monde en Afrique du Sud. La comparaison est assurément exagérée, mais donne malgré tout une idée du phénomène et du paradoxe que représente Martina Sablikova. Dans un pays où le hockey sur glace est le sport roi en hiver et où le patinage artistique possède une solide tradition, le patinage de vitesse est, lui, curieusement, longtemps resté absent du paysage sportif en République tchèque. Avant la découverte par le grand public de Martina Sablikova à Turin en 2006, un seul tchèque s'était d'ailleurs qualifié pour les Jeux Olympiques pour ensuite échapper à la dernière place uniquement grâce à la chute d'un autre concurrent. Et aujourd'hui encore, malgré les exploits répétés de Sablikova, déjà élue deux fois sportive tchèque de l'année en 2007 et 2009, la République tchèque ne possède toujours aucun anneau de glace artificiel et couvert propice à la pratique de la discipline. Du coup, même si elle multiplie désormais les stages d'entraînement à l'étranger, celle qui a longtemps été présentée comme la Cendrillon du patinage de vitesse par les médias pragois s'entraîne encore parfois sur les étangs gelés de sa Moravie natale. Des conditions qui ne l'ont toutefois pas empêché de se bâtir un des plus beaux palmarès du sport tchèque, toutes disciplines confondues, en l'espace seulement de 4 saisons et à seulement 22 ans. Triple champion du monde du 5000 mètres, une distance dont elle est également la record woman, championne du monde en titre du 3000 mètres et du combiné, triple vainqueur du classement général de la Coupe du Monde sur longue distance. Martina Sablikova sera donc incontestablement le principal espoir de médaille tchèque à Vancouver. La liste de ses succès est d'ailleurs si longue que le site officiel des Jeux indique en bas de page avoir volontairement omis certains résultats. Battue une seule fois sur 5000 mètres ces trois dernières saisons, elle sera notamment l'immense favorite sur la distance, mais elle le sera aussi à un degré moindre sur 3000 mètres. Et Martina Sablikova, modèle de modestie, a beau affirmer, comme pour se protéger de la pression, qu'elle sera satisfaite de toute médaille remportée, quel qu'en soit le métal. Elle n'est pas non plus sans savoir qu'elle pourrait bien devenir la première athlète tchèque, homme et femme confondus, à remporter deux médailles d'or à des Jeux Olympiques d'hiver. Si tel était le cas, le petit monde du sport tchèque ne devrait pas chercher plus loin pour l'élection du prochain sportif de l'année.
C'était donc les faits événements en République tchèque. Notre émission se poursuit par un sujet aux couleurs franco-tchèques.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Le 26 janvier dernier, le sénateur d'Ille-et-Vilaine Edmond Hervé a reçu dans la capitale morave le prix de la ville de Brno dans le domaine de la coopération internationale pour sa contribution au développement du jumelage entre Rennes et Brno. Edmond Hervé a dirigé la mairie de Rennes pendant près de 30 ans. Il a répondu aux questions d'Anne-Claire Veluire.
Monsieur le sénateur, bonjour.
Oui, bonjour.
Edmond Hervé, vous êtes sénateur d'Ille-et-Vilaine et maire honoraire de la ville de Rennes. Vous avez reçu mardi 26 janvier le prix de la ville de Brno. Quelle a été votre réaction?
Bien évidemment, j'étais très fier de recevoir ce prix international et d'être honoré. C'était une manière pour moi qui m'était donnée également de remercier toutes les personnes de Brno, de Rennes, qui avait participé de manière très active à toutes ces relations qui se sont écoulées depuis le jumelage qui date de 1965.
Au début, je pensais que c'était vous qui étiez à l'origine de ce jumelage et ensuite j'ai vu qu'il datait de 1965, donc avant votre premier mandat à la mairie de Rennes. Est-ce que vous pouvez néanmoins nous raconter un petit peu comment s'est monté ce jumelage au milieu des années 60?
Oui, alors, le point de départ de ce jumelage est ancien, puisque mon prédécesseur, Henri Fréville, appartenait à cette génération qui avait vécu les accords de Munich et qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Et les Français qui étaient sensibilisés à la vie internationale avaient une attitude très critique à l'égard de ces accords de Munich, car avec eux, quoique appartenant à une génération plus jeune, nous estimions que la France n'avait pas tenu son rang et qu'il était nécessaire de montrer la réalité de l'amitié entre des villes telles que celle de Rennes et des villes des pays de l'Europe de l'Est, notamment de la Tchécoslovaquie et plus particulièrement de Brno. D'autre part, nous étions très attachés bien évidemment à la démocratie et nous étions convaincus que des relations devaient se faire pour que la démocratie un jour puisse s'exprimer et pour que au cours de ces années 60, 70, 80, on puisse, par nos échanges, par nos relations, montrer ce qu'est l'idéal démocratique au niveau notamment d'une ville.
Alors pour en revenir un peu à l'histoire de ce jumelage, le fait qu'il se soit créé au milieu des années 60 ou en 1965, c'est une période où ici en Tchécoslovaquie le régime était un petit peu en train de se relâcher, mais vous, quand vous avez eu votre premier mandat à la mairie de Rennes en 1977, ici c'était une période, la fin des années 70 et les années 80, qui étaient beaucoup plus difficiles, où le pays s'est beaucoup refermé sur lui-même. Comment ça se passait, ces relations avec la ville de Brno?
Nous avons eu des relations très suivies. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que les échanges que nous avons eus ont été des échanges continus, même s'il y avait des périodes un peu plus difficiles. Mais c'était des échanges avec des sportifs, avec des associations versées dans l'université. des personnes qui s'intéressaient à l'économie, aux entreprises, à la vie politique. Et ce qui fait le particularisme, si vous voulez, de ces échanges, de ces relations, c'est qu'ils ont concerné, du côté rennais, des gens très différents les uns des autres et appartenant à une même culture. Et je pense que c'est plusieurs milliers de rennais qui, par ce jumelage, ont eu des contacts avec la ville de Brno. Alors, personnellement, je connaissais bien évidemment la philosophie politique qui inspirait les représentants de cette ville. Et je peux vous raconter une anecdote. Par exemple, la seconde fois où je suis allé à Brno, j'avais tenu à rencontrer des dissidents. Et bien évidemment, je n'avais pas fait part de ce souhait aux autorités communistes de Brno, pour des raisons que vous imaginez. Et je me suis retrouvé, après des circulations multiples, parce que il ne fallait pas, comment dirais-je, créer de difficultés pour la personne qui allait me recevoir. Je me suis retrouvé dans l'appartement d'une jeune femme, et j'ai eu en main un samizdat. Et là, j'ai vu très physiquement ce que c'était que l'idéal de l'expression libre dans un pays qui tournait le dos précisément à la démocratie. Et puis, j'ai vu aussi quel était l'espoir qui pouvait exister, un espoir que bien évidemment je partageais et que je portais.
Concrètement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites de rennais ici à Brno dans les années 70-80?
Ça s'est étalé, si vous voulez. Il y a eu des visites qui ont été très, très continues. Et d'autre part, il y a eu des visites aussi des gens de Brno à Rennes qui ont été continues. Et par exemple, je vais me souvenir d'un cas. Nous avions à Rennes, et nous avons à Rennes, des troupes théâtrales et notamment des troupes de marionnettes. La République tchèque est très versée dans cet art. Eh bien, il y a une troupe de marionnettistes rennais qui est allée à Brno, et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que la responsable de cette troupe avait appris le tchèque pour pouvoir mieux communiquer encore avec les gens qu'elle rencontrait, quoi. Mais ce qui est très important, c'est que ces relations, bien évidemment, n'étaient pas quotidiennes, elles étaient plus ou moins espacées, mais j'avais tenu, et ceci fait partie de ma philosophie, j'avais tenu à ce que il n'y ait pas que des notables, si vous voulez, qui construisent ce jumelage. Il fallait que ce soit un jumelage très populaire, parce que une diplomatie dans une démocratie n'a de sens que si elle est comprise et portée par la population. Et les jumelages sont des choses importantes. Je considère, par exemple, que l'Europe, l'Union européenne, n'aurait pas existé si, dès la fin des années 40, les débuts des années 50, il n'y avait pas eu précisément ces orientations, ces relations.
Est-ce que le jumelage entre Brno et Rennes a un lien avec le fait que Rennes soit, ou l'université de Rennes est une des rares universités à enseigner le tchèque?
Alors, Rennes a un pôle de langue dans l'université de Rennes 2 très important. Et puis, je me permets de vous rappeler ce point, c'est que lorsque Milan Kundera a été exilé, il a enseigné d'abord à l'université de Rennes 2. Rennes 2, c'est l'université littéraire. Eh bien, tout cela, cela conforte effectivement les relations. Et je vous parlais de l'histoire tchèque. Quand je suis allé pour la première fois à l'université Masaryk à Brno, vous imaginez bien ce que j'ai ressenti.
Une dernière question, justement, vous avez évoqué Milan Kundera quand vous avez été récompensé à Brno. Le même jour, la mairie de Brno a annoncé qu'elle allait remettre le prix de citoyen d'honneur à Milan Kundera. Comment avez-vous réagi?
J'étais très heureux que la ville de Brno attribue ce titre de citoyen d'honneur à Milan Kundera. Et c'est là que l'on voit aussi le rôle international de la littérature, le rôle des arts dépassant les frontières. Et hier, par exemple, je relisais le discours d'Albert Camus prononcé à Stockholm lorsque celui-ci a reçu le prix Nobel. L'art, la littérature sont faits précisément pour tisser des relations au bénéfice de la liberté et des hommes de liberté.
I want my boyfriend to be so sad. I want that spotlight to be shining on me. It's like that. I don't talk about this. Don't want to be so low. To be like I said, to be so bad.
Merci d'avoir suivi cette émission en français préparée par l'équipe de Radio Prague. Je vous dis, chers amis, au revoir. À demain. Nasledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz.